bonsoir et merci d'être présent, en tout cas, à cette soirée en présentiel, sachant qu'il doit y avoir à peu près une quarantaine de personnes en distanciel, donc qui suivent aussi cette soirée. La revue Archives de philosophie, du cahier coordonné par Daniel Cohn, dont je crois pouvoir dire que fonctionnait souvent, oui, en affinité. Et c'est une idée qui était quand même ancienne. Vous avez déjà coordonné pour la revue le dossier L'esthétique, tout simplement, où il y avait Jacques-Olivier Bigot. Alors je vais faire un effort. Voilà.
Ah oui, il ne faut pas que vous vous tourniez.
Donc il faut que je sois figé. Ça ira tout à fait avec mon tempérament. J'espère que vous y retrouverez. Voilà. Donc, Jacques-Olivier Bigot qui a aussi participé à un dossier sur l'esthétique tout simplement. Philippe Orfalino qui avait écrit un article dans Le Jugement en péril. Et puis nous voilà avec l'affinité, des affinités électives où, il y a, je dirais, l'ensemble des intervenants, des auteurs de ce dossier sont présents, plus Paul Ratto, ici, qui est membre du comité de rédaction de la revue, spécialiste de Leibniz, et qui nous fait l'amitié de venir donner une sorte de contrepoint sur les affinités. Voilà ce que je puis dire. Je vous laisse tout de suite la parole, Daniel, et puis je vais...
Oui, donc lors de la présentation, je vais faire une présentation du numéro, c'est-à-dire et pourquoi les affinités et comment ce numéro s'est composé. Et puis ensuite, de l'article que j'ai signé moi, mais c'est très important que vous ayez d'autres articles. Donc ensuite, chacun prendra la parole dans... Alors, n'ayant pas réussi à trouver une logique à l'ordre, on va reprendre l'ordre du numéro, c'est-à-dire que Feriel Cadour, qui est ici à mes côtés, parlera de Goethe et Schubert après une lecture du Faust. Ensuite, Rémi Mermet, qui est là sur ma gauche, parlera de l'affinité entre les peuples et de Heinrich Wölfflin et de la question des nationaux. Jacques-Olivier parlera de Adorno. Alors, comme disait Philippe Orfalino, après autant d'esthétique que ces quatre interventions apporteront, l'idée était justement que l'esthétique a des liens très très forts avec la morale depuis son élaboration au XVIIIe siècle. Donc, il y a un article qui paraît étonnant, mais qui fait tout à fait partie des choses, et qui, lui, s'occupe de philosophie contemporaine, puisque la spécialité politique. Et quant à Paul Ratto, alors il nous a fait la que moi, mais c'est surtout que je me suis demandé à la fin comment j'avais pu sans convoquer le Leibniz, qui était mon collègue à Paris 1, et donc c'est une sorte de réparation de l'erreur. Vengeance, ça peut s'avérer une vengeance, mais dans mon esprit, pas du tout. On y soit qui mal y pense, c'était plutôt quelque chose de réparateur. Donc voici. Pourquoi l'affinité? Pour dire le vrai, l'affinité, ça vient d'une fascination pour un roman. Quelques-uns d'entre vous ont lu ce roman, mais c'est un roman assez fascinant, un roman décisif pour l'histoire du roman au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est un roman irreprésentable. Toutes les tentatives cinématographiques se sont heurtées au statut qui est devenu le leur une fois que le film est sorti. Et en même temps, quand on le commence, à mon avis, passer les 50 premières pages, on ne peut plus le lâcher. C'est un mécanisme fréquent dans la littérature allemande. On n'a pas notre capacité d'allégresse dans l'avancée du problème, parce qu'il y a un rythme de la lenteur dans le roman allemand auquel il faut s'habituer, mais une fois qu'on y est, on ne le lâche pas. Donc il y a ces affinités électives qui en a et qui pose déjà un problème en termes de, d'analyse des termes, parce que c'est une parenté choisie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une parenté choisie ? C'est lié à la filiation et éventuellement au sang. Qu'est-ce que c'est qu'une parenté où le choix repose sur un contrat ou est un choix qui repose sur une attraction par rapport à laquelle on ne saurait résister ? Problématique. Et ensuite, il y avait donc ce roman qui est une toile de fond et Goethe devient un auteur de référence dans ce numéro. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je ne peux pas passer, donc Ferrier l'ironie. Je pense que Goethe n'a pas la place dans l'histoire. Je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut lui restituer cette part et qu'il faut s'installer dans un Goethe et Kant au lieu de que l'histoire de la philosophie se concentre entièrement sur Kant sans jamais faire la part à quelqu'un qui est aussi un grand artiste. Et quand on fait de l'esthétique, on aime bien avoir ce à cheval et ses mouvements. Et après, il y avait une irritation que peut-être certains d'entre vous ont aussi, ce côté de la vulgarisation de l'affinité en « et plus si affinité » m'a toujours affligé parce que je ne voyais pas très bien ces petites annonces. C'est ce vocabulaire de la connivence, de l'affinité entre les êtres et on ne savait jamais ce que c'était. Donc, je m'étais dit qu'il fallait restituer à l'affinité ce qu'il en est de sa profondeur philosophique et de son efficace artistique. Donc, après, l'affinité élective, vous la retrouvez dans un des chapitres du Rouge et le Noir, Magritte. Donc, il y a un petit fil entre artistes aussi autour de cette question de l'affinité, parce que les artistes, eux, ont lu les affinités électives, ce que les philosophes n'ont pas toujours fait. Donc, voilà, ça, c'était l'idée. Et puis, bien sûr, en fait, c'est un concept que la philosophie travaille, c'est-à-dire qu'il y a une place de l'affinité dans la critique de la raison pure et dans la critique de la faculté du jet, et il y a une grande place de l'affinité chez Leibniz. On ne peut pas dire que ce soit un concept absent de l'histoire de la philosophie, mais ce n'est pas un concept qui est mis en avant, probablement parce qu'il est encombrant et que une certaine déclinaison lui a donné un côté sentimental dont la philosophie, par définition, cherchera toujours à se méfier. Voilà. Alors, mon problème, c'était est-ce que des articles peuvent combiner quelque chose autour d'une notion qui n'est pas vraiment un concept. C'est une des que l'ensemble des articles que vous lirez si vous regardez la revue vous confortera dans l'idée que si ça n'est pas un concept, régime, et que c'est un régime de la pensée et de la création qui est parfaitement consistant. C'est une notion qui nous oblige à réfléchir à le rapport que nous entretenons aux objets qui nous entourent, aux êtres qui nous entourent, donc qui se situe dans quelque chose qui crée de la relation, et la catégorie de la relation est une catégorie fondamentale en histoire de la philosophie, surtout à partir du XVIIIe siècle. Donc ça me paraissait ça très important. Et du point de vue artistique, les artistes réfléchissent beaucoup au statut de l'objet par rapport à leur volonté poétique, donc à leur création, donc sont dans une réflexion et une pratique de rapport sujet-objet. Un certain nombre des articles prennent en compte ce rapport entre le sujet et l'objet, et l'affinité, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle va plus du côté de l'objet que du sujet. Et ceci parce que, s'il s'agit de créateur, le sujet devient très encombrant, puisque la boursouflure narcissique guette, et que l'objet est exactement ce qui est régulateur pour arriver à créer. Alors Magritte dit ça très bien dans ce tableau où on voit une cage et un œuf, dans ce réaliste où on se le dit, c'est-à-dire les gens qui veulent interpréter, ils voient dans l'œuf un symbole. Moi, je ne vois pas dans l'œuf un symbole. L'œuf est là, donc il faut prendre en compte ce qui existe Donc on sent chez Magritte une tension qu'il installe dans sa réflexion sur ce qu'il fait entre herméneutique et phénoménologie. Il faut arriver à la chose elle-même et il ne faut pas être dans une interprétation qui manipule le symbole dans la fonction d'absorption que peut avoir le symbole par rapport à l'état de l'objet. Et il se trouve que Magritte, faisant cela, retrouve les débats que Goethe avait et Kant sur la part de l'objet et la part du sujet. C'est quelque chose que Walter Benjamin reprend beaucoup. Jacques-Olivier en parlera mieux que moi. Que Ernst Cassirer reprend en compte aussi. Et c'est quelque chose qui nous confronte en esthétique à ce qu'il en est du statut de la critique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait une herméneutique qui soit une critique juste ? Comment est-ce qu'on n'est pas dans la projection, pas dans l'absorption ? Il est clair que la ligne que dessine l'affinité, c'est qu'elle reste énigmatique, mais qu'elle est quelque chose qui permet de s'abîmer dans l'œuvre. Dans l'œuvre, on évite à la critique une réflexivité externe et on peut arriver à ce que Walter Benjamin a appelé une critique exemplaire. Alors, ce sont des problèmes qu'on retrouve du côté de la politique dans les débats actuels où on travaille sur l'alliance, où on se bat autour de la question de l'identité. Et on est très mal à l'aise avec le rapport d'une soi-disant homogénéité ou d'une nécessaire homogénéisation et de l'autre côté, ce qu'il en est d'une altérité qui est justement ce que l'affinité fait fonctionner parce que l'affinité n'est pas réductrice. Donc voilà à peu près les lignes de notre affaire, d'où aussi ce titre hésitant, l'affinité, les affinités électives, parce que finalement je n'ai pas su choisir à la fin que Laurent m'a laissé dans cet état en suspens où j'ai aligné les trois termes en considérant que comme ça rien ne manquerait et qu'après tout il valait un peu plus que un peu moins. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à chacun. Il y a juste une chose que je veux dire, c'est qu'il est absolument fabuleux de travailler avec Laurent Gallois. Comme il a eu la gentillesse de dire que c'est le troisième numéro que je dirige, j'ai effectivement une certaine pratique et que personne comme lui ne sait vous laisser le temps, et Dieu sait qu'il m'en faut à moi, donc je dois être un cas particulièrement exemplaire, qu'il y a une patience jusqu'à ce qu'on arrive de son propre projet. Et il accepte des numéros qui, dans des revues de philosophie ailleurs, ne seraient peut-être pas acceptés parce que les thématiques, c'est un peu le problème de l'esthétique en philosophie, mais pas seulement, les thématiques ne paraissent pas très philosophantes parce qu'elles ne correspondent pas au moule de l'histoire de la philosophie. Et quand on est reçu aux archives, on peut se déployer dans des bas-côtés, des allées secondaires, et on est encouragé à le faire. Et donc je crois que tous ici, nous remercions Laurent de sa générosité et de la lecture extrêmement attentive qu'il fait ensuite de chacun de nos articles. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Feriel. Feriel Cadour, juste pour présenter chacun, je fais pas les choses très bien. Feriel Cadour est musicologue et pianiste et elle enseigne la musique et la musicologie à l'École normale supérieure.
Merci beaucoup, Daniel. Je me joins à tes remerciements adressés à Laurent Gallois. Et je me réjouis que tu nous aies réunis autour de cette table. Je retrouve d'ailleurs autour de cette table un certain nombre de personnes avec lesquelles je partage de fortes affinités depuis de longues années, désormais. Merci donc pour cela. Je voulais aussi te remercier plus directement, Daniel. Parce que lorsque tu m'as soumis, il y a maintenant quelques années, cette pensée le lead, donc le lead romantique allemand, le lead schubertien par exemple, par l'affinité, cela a eu pour moi une très très grande importance. Parce que déjà, tout de suite, tu m'avais prévenu en ce qu'elle n'engage ni la ressemblance ni l'analogie, elle se joue ailleurs. Et j'étais en train, à cette époque-là, d'élaborer les toutes premières fondations d'un essai sur le lead, qui est en train de se terminer, et ta question a vraiment fonctionné comme un très fort déclencheur. Alors commençons d'abord par prendre le problème par le mot lead, qui rien qu'à lui pose une question d'affinité. Parce que lead désigne le poème et son chant. Lied s'écrit dans les vers de Goethe, de Heine, de Eichendorff et de tant d'autres. Mein Lieder, mes chants, mes poèmes. Hein, c'est quasiment un synonyme de poème. Et il se compose aussi, Lied, sous la plume de musicien, sous la plume d'un Schubert ou d'un Schumann. Alors de cette synonymie, le Lied écrit, le Lied pour chant, il résulte un effet de mirage. C'est-à-dire l'idée d'une immédiateté réciproque. La langue poétique irait vers son chant sans aucune médiation et le chant n'aurait qu'à prolonger ce qui s'amorce déjà dans le poème. Cette absence de médiation, elle fait croire à une fausse proximité. La poésie s'approchant du chant du fait de la musicalité latente de ses vers et de l'autre côté, la musique s'approchant du poème en s'appropriant ses structures sémantiques. De part et d'autre, cette immédiateté serait garantie par un exercice d'imitation, la poésie imitant la musique et la musique imitant la poésie, l'une tendant son miroir à l'autre. Alors il se trouve que le répertoire du lead, en tout cas sa pratique, parce que je suis pianiste avant d'être musicologue, sa pratique, son expérience m'a appris à me méfier de cette apparente continuité. En fait, il suffit de se retrouver à chercher à deux, au piano et au chant, le bon tempo pour jouer Gretchen am Spinnrade, Marguerite Rouet, bien le tout premier des Dichterlieb de Schumann, les amours du poète, pour se rendre compte que cette immédiateté ne fonctionne pas. Dans le Lied, la musique et la poésie ne se superposent pas exactement, quelque chose d'autre se produit et qui gagne en effet à se penser sous le signe de l'affinité. En d'autres termes, le Lied ne se produit pas à l'endroit d'une redondance du poétique et du musical, ou d'une projection du musical par le poétique, bien au contraire, il se produit en tant que Lied à l'endroit où cette fusion, cette superposition, cette immédiateté, si vous voulez, échoue. Côté poème d'abord. Le poème, en se nommant Lied, ne cesse d'instancier l'idée de son propre chant. Et pourtant, dès lors qu'il écrit Lied, il s'en dissocie aussitôt et entraîne l'idée de son chant dans une réflexivité qui se déploie aux marges de la voix, à l'écrit précisément, dans le jeu de voix intérieure, de voix mise en sourdine par l'écriture. Côté musique ensuite, la musique du Lied, si elle joue l'évidence d'une stricte adhérence au poème, à sa diction, à sa structure poétique, à l'ascension de ses vers, eh bien elle ne cesse de creuser aussi sa différence. Une différence avec cet idéal naïf, avec ce modèle sous-jacent et pourtant inexistant, en particulier en Allemagne, au moment où naît le Lied schubertien, c'est-à-dire l'idée, disons, naïve, idéale et inexistante d'un Lied qui aurait vu naître d'un seul tenant et au même moment ses vers et son chant. L'affinité, cher Daniel, tu dis qu'elle est non mimétique. Et je te cite encore, elle met à mal la catégorie de la relation puisque principe de liaison, elle peut produire de la déliaison. À cet endroit, j'ai une véritable dette à ton égard. La question de l'affinité, elle m'a ouvert une voie et littéralement, elle m'a mise au travail. Disons même qu'elle a rendu ce travail. Parce que tu m'engageais à penser le Lied depuis la possibilité de sa déliaison et à l'encontre de ses identités trop bien stabilisées. En d'autres termes, à l'endroit où musique et poésie se lient sur fond de leur déliaison. Il se trouve que Gretchen am Spinnrade, l'un des leaders que je traite dans l'article de ce volume, est un poème de Goethe qui a été mis en musique par Schubert. Mais il se trouve plus précisément que ce poème est extrait du Faust. Alors, j'ai eu envie, pour cette raison-là précisément, de poser la question de l'affinité à cet endroit-là. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de poser la question de l'affinité entre la musique et le poème, mais de poser la question de l'affinité entre la musique, celle de Schubert, et le Faust, en ce qu'il traite, à grande échelle, du Lied. Le fait est que Schubert, par ailleurs, va composer plusieurs Lieder à partir du Faust. 4 en tout, qui sont tous consacrés au monologue du personnage Margaret Gretchen. Et que tous ces monologues de Gretchen dans le Faust ont à voir avec la musique, avec le chant. Hein, donc on peut pressentir que Schubert, comme beaucoup de jeunes gens de cette génération, lisait le Faust. On peut pressentir aussi que, comme tous les jeunes compositeurs de sa génération, il a rêvé d'en écrire un opéra, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est attaché à la voix de Gretchen parce que dans le Faust, tous les monologues de Gretchen traitent de la musique, ont à voir avec la musique. Hein, pas spécifiquement avec le lead, mais avec une idée musicale. Le fait est que deux seulement de ces Gretchen leaders sont véritablement des leaders. Le tout premier, Es war ein König in Thule, il était une fois un roi de Thule, qui est plutôt une ballade qu'un lead, mais bon, elle chante ça vraiment comme un lead dans le texte de Schubert, dans la partition de Schubert, et dans le texte du Faust, on sent vraiment qu'il y a cette recherche propre d'une écriture poétique propre au lead. Les autres monologues de Gretchen ne sont déjà plus exactement des leaders. Ils s'en éloignent et ils vont donner, en tout cas pour Gretchen am Spinnrade, à Schubert, la matière idéale du lead. Donc c'est finalement au moment où elle s'éloigne de l'identité du lead, Gretchen, que Schubert va trouver la matière de son propre lead. Et puis, dans la courbe du Faust, si on suit les choses ne se passent pas très bien pour Gretchen, et les derniers de ses monologues sont plutôt des monologues de déconstruction de sa voix, d'effondrement progressif, qui passe aussi par la musique, et qui se termine à nouveau par un lead. Ça va du lead au lead, la courbe, si vous voulez, de Gretchen. Sauf que ce dernier lead, la comptine du Genévrier, est vulgaire. Le premier vers, c'est « Ta mère la pute », donc c'est un peu difficile à mettre en musique. C'est un petit lead d'une violence extrême, avec une histoire de marâtre qui a tué un enfant et l'a donné à manger à son père. Ça se termine donc sur une sorte de figure absolument répulsive du lead. Elle dit d'ailleurs à ce moment-là, Gretchen, elle est folle dans son cachot, elle va être décapitée parce qu'elle a elle-même tué son enfant et qu'à cause d'elle, sa mère et son frère sont morts. Elle dit à ce moment-là, il chante des leaders après moi. Elle chante ce lead, mais c'est comme si le lead chantait après elle. Donc toute la trajectoire de Gretchen a à voir avec le lead c'est précisément cela qui permet à Schubert de trouver la clé de son propre lead. C'est donc là une première raison de penser la relation entre musique et poésie par affinité. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans la poésie un modèle du lead, mais de mettre en musique, donc en lead, ce que le poème fait du chant. Un chant qui, dans le Faust, se déplace, se transforme, est soumis à la loi des formes changeantes. C'est le premier vers de la dédicace du Faust. Ce qui veut donc bien dire que le lead, pour Schubert en tout cas, je crois, la lecture du Faust, se constitue à l'endroit d'un jeu du poème avec le lead, du poème avec le chant. Hein, c'est vraiment l'idée que j'ai essayé de développer dans cet article, c'est que Schubert ne met pas en musique la poésie, il met en musique ce que la poésie fait du chant, hein, ce qui est déjà plus tout à fait la même chose. Alors, ceci m'amène à souligner un deuxième point, un autre registre, qui engage la question de l'affinité, qui déborde un petit peu ce que j'ai proposé dans l'article, même si c'est abordé à certains endroits, c'est la manière dont le Faust traite non seulement de la question du chant, mais aussi de la question du lead, pas seulement de la voix qui chante, mais du lead même. Et cela en marge des monologues de Gretchen. On trouve le mot lead à beaucoup d'endroits dans le Faust, dans la dédicace, dans les prologues, dans certaines grandes scènes de Méphisto. Et on le trouve à un endroit qui, moi, m'a énormément frappé, d'abord parce que dans un premier temps, je ne l'ai pas vu. C'est à la fin de Hexenküche, la cuisine des sorcières. Donc dans Hexenküche, Faust boit le filtre diabolique qui va lui offrir éternelle jeunesse et accès au monde en tant que totalité, hein, au monde infini. Il boit le filtre et à la fin de la scène, au moment de partir, la sorcière lui dit, ainsi qu'à Méphisto, « Tenez, voici un lead. Chantez-le de temps en temps, vous en éprouverez des effets particuliers. » Alors, de ce lead, il n'est rien dit, ni son texte, ni sa musique. Ce lead, c'est véritablement un angle mort dans le poème. Tellement angle mort que, véritablement, moi, dans un premier temps, je ne l'avais pas vu, ce lead-là. Ce lead très discret, dans l'angle mort du poème, il figure évidemment comme le doublon du filtre. Hein, il doit faire perdurer les effets du filtre. Et bien sûr, on le comprend aussi comme un élément de déconstruction, de négativité qui entre dans le poème. C'est un lead vacant qui vaut pour non-dit du lead, en creux du lead, dans son ombre, comme le négatif du poème qui réfère à la turbulence acoustique du Faust. Hein, c'est le non-lead à même le lead. Et ce lead, il fait face à un autre lead, tout au début, dans la dédicace. Cette fois, c'est le narrateur, hein, figure liminaire d'auteur, qui énonce « Mon lead s'élève ». au son de la harpe éolienne. En face du lied de la sorcière, il y a donc ce lied idéal de la naturpoésie. Voilà donc deux pôles du lied. D'un côté, le chant naturel, la naturpoésie, et puis de l'autre, le lied diabolique, le lied de la destruction, le lied négateur, le lied méphistophélique, si vous voulez, qui n'est pas exactement chanté par Méphisto, mais qui agit dans le poème du Faust. Gretchen, elle se situe très précisément à l'intersection de ces deux pôles. Donc ce que Schubert met en musique, c'est pas seulement l'affinité du poème avec le chant, c'est aussi cette double affinité du poème, cette double polarité du lied, pardon, qui va vers la nature, vers l'idée de la naturpoésie, l'harmonieuse naturpoésie, et puis de vers l'idée du poème fragmenté, exposé à sa propre négation. Hein, donc, ça, ce qui redouble encore une fois de l'affinité dans ce rapport entre musique et poésie. Un troisième point, enfin, qui fait écho à ce que Daniel vous a dit à l'instant, donc je m'en réjouis, parce que ça, c'est un point que je n'ai pas développé dans l'article, mais qui est sous-jacent dans l'article à certains endroits, et qui me préoccupe désormais de manière plus directe. Ce troisième point, c'est que, puisque c'est Gretchen qui concentre cette dialectique du lied, hein, entre nature, poésie et lied diabolique, entre musique et poésie, eh bien, il faut voir aussi que le point affinitaire, il se concentre sur, à l'endroit d'une fragilité du sujet. Il y a un personnage dans le Faust qui ne chante jamais, c'est Faust. Lui, il ne chante pas. Lui, il n'a pas le lied. Celle qui chante le lied et qui se déplace à travers le lied, c'est Gretchen. Gretchen, le personnage affinitaire par excellence, influençable, mais elle dit non aussi. À la fin, elle dit non au diable. Elle est influencée par la langue des autres. Son vers, le Knittelvers, se déforme quand elle parle avec Faust et devient ce qu'on appelle un madrigalvers. Et puis, elle est emmenée en permanence dans cette double polarité. Elle est à la fois celle qui est dévoyée et celle qui pose la question de la religion à Faust. À la fois religieuse et dévoyée, madrigalvers, Knittelvers, bref, elle est vraiment polarisée. C'est un personnage affinitaire au sens où elle est instable, certes, elle se déplace entre plusieurs figures possibles, mais des figures. Des figures qui se tracent et qui font d'elle un personnage flottant, certes, précaire, mais probablement le personnage qui a le plus intéressé Schubert pour toutes ces raisons-là. C'est en tout cas, je crois, parce qu'elle est affinitaire plutôt que totalisante qu'elle devient, sous la plume de Goethe, la voix du lied. Une voix de jonction, donc la voix des équilibres fragiles, la voix des marginaux, la voix du Wanderer, des femmes délaissées, de tous ces personnages errants qui vont constituer le répertoire du lied, la voix décentrée, non subjectiviste, de ceux qui ont renoncé aux positions dominatrices de la raison. C'est bien pour cela aussi que le lied de Gretchen et le lied dans le Faust est affinitaire, hein, parce que c'est une voix d'intersection, une voix qui dit « je », mais qui n'est pas tout à fait un « moi », une voix qui marche dans le monde, ce sera plus tard la voix du Wanderer de Schubert, mais qui ne possède pas ce monde, ni même les choses dans ce monde. C'est une voix du Schweben. Schweben, ce terme allemand que j'aime beaucoup, qui veut dire flottant, c'est pas très bien traduit, disons quelque chose qui se suspend. Goethe, très discrètement, en avait donné la direction dès la dédicace du Faust. Lorsqu'il dit que son lied s'élance au son de la harpe éolienne, il dit que son lied schwebt, mein Lied. Mein Lied schwebt. Je crois que l'affinité schubertienne, ce n'est pas d'avoir constitué la figure musicale de cette suspension du lied, mais c'est d'en avoir entendu tout le programme. Je vous remercie.
Je te remercie pour cette figuration qui est comme d'ailleurs chez Goethe, tous les personnages qui sont toujours des personnages non aboutis dans les affinités électives, c'est Ottilie, c'est Mignon dans les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Les personnages féminins chez Goethe sont des personnages dont l'inachèvement est la richesse, mais aussi la fragilité constitutive. Et en même temps, comme ils sont affinitaires, ils régulent les rapports entre les autres. Donc, la seule chose qui nous manquait, c'était la piano, mais bon, il n'y a pas de piano ici, la prochaine fois. Donc maintenant, je vais passer la parole à... à Rémi Mermet, qui, on va changer complètement de registre, parce que l'idée est aussi que l'affinité est quelque chose qui...
Exactement, bon, en restant quand même dans un thème très goethéen, puisque... Oui, vous m'entendez ? Ouais. C'est vrai que la base de mon article, ce qui m'a motivé à l'écrire, en dehors de votre invitation, c'est aussi une forme d'irritation ou d'exaspération que nous partageons tous les deux pour le traitement que reçoit généralement dans la critique. Il y a un problème de son. Pour le traitement que reçoit généralement dans la critique contemporaine, l'historien de l'art suisse de langue allemande Heinrich Wölfflin. Donc, si vous connaissez pas Wölfflin, c'est un des pères fondateurs de l'histoire de l'art scientifique, de l'histoire de l'art comme discipline universitaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui, dans les grands partages historiographiques, est considéré avec Alois Riegel notamment comme le formaliste, donc celui qui va s'occuper plutôt de l'analyse des formes, de ce qui relève du visuel dans l'art, qu'on oppose de manière très schématique à l'école de Warburg, de l'école hambourgeoise autour de Panofsky, de l'iconologie, etc., qui serait plus dans l'analyse, on va dire, du sens culturel ou historique des œuvres d'art. Et il y a un petit peu une petite musique qui s'installe depuis ces dernières années autour de Wölfflin, puisque pendant très longtemps, on l'a un peu fustigé justement pour son formalisme, donc l'idée qu'il ne prendrait pas en compte vraiment l'inscription de l'art dans la culture ou dans l'histoire, ce qui est totalement faux. Mais depuis quelques années, on a aussi tendance, et là on fait le lien entre esthétique et politique, on a tendance à critiquer son dernier grand ouvrage qui s'appelle « Le sentiment germanique de la forme »,« L'Italie et le sentiment germanique de la forme », puisque dans cet ouvrage, il s'occupe de la question des styles nationaux. Et c'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 30, dans un contexte assez particulier, que vous connaissez tous. Et il y a un petit peu cette idée qu'il aurait abandonné la scientificité de ses principes fondamentaux de l'histoire de l'art, donc de l'analyse visuelle formaliste des œuvres, pour tomber dans une sorte de nationalisme, voire même de racisme patenté. Et c'est vrai que ce qui n'a pas facilité la réception du dernier Wölfflin, c'est que certains de ses étudiants ou continuateurs qui se revendiquaient en tout cas de sa pensée dans les années 30 ont récupéré la méthode wölfflinienne pour en faire une sorte d'histoire de l'art nazi. Il y a des livres absolument illisibles où on reprend la méthode wölfflinienne, où il va comparer une œuvre baroque avec une œuvre classique là, pour montrer la différence de traitement dans la forme, où on va faire des comparaisons vraiment explicitement racistes entre... Voilà. Donc là, il y a vraiment eu un dévoiement de l'histoire de l'art sous le nazisme, mais en fait, qui n'est pas du tout le fait que par rétrospection un peu bizarre, on a invité à Wölfflin. Donc, il y a toute une littérature qui va nous dire que, puisque Wölfflin utilise le terme de race, qui effectivement était un terme extrêmement commun à l'époque pour qualifier en fait des unités culturelles, parce que chez Wölfflin, il n'y a pas du tout de notion de race au sens biologique, hein, comme dans la pensée nazie. Mais donc, vu qu'il utilisait ce vocabulaire d'époque, de race, il y a eu une sorte de simplification. Donc, on peut lire récemment encore que la pensée de Wölfflin est finalement essentiellement raciste, puisqu'il nous dit dans son dernier livre que les Allemands, en tout cas, le principe de son dernier livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des Allemands, donc qui sont Allemands, qui ont une culture allemande et qui ont des formes germaniques, des formes artistiques germaniques autour d'eux, pourquoi ces Allemands-là seraient en mesure, enfin, s'intéressent à l'art italien, puisqu'il y a un tropisme fort dans la culture germanique vers le sud, hein, comme on disait. Désolé, c'est un petit peu décousu, parce que je suis parti un petit peu dans plusieurs choses. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on reproche à Wölfflin, c'est vraiment une sorte de racialisation, ou en tout cas de nationalisme, et donc qui fait que sa pensée serait jetée à la poubelle. Voilà. Donc j'ai eu une sorte d'irritation, voire d'exaspération par rapport à cette question-là, puisque au fond, les critiques qui rejettent cette pensée wölfflinienne ne vont pas du tout voir les textes. Donc mon idée, c'était de retourner lire les textes et d'essayer de comprendre exactement ce que nous disait Wölfflin des rapports entre les styles nationaux. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire en écrivant ce livre qui s'appelle « L'Italie et le sentiment germanique de la forme ». Et en fait, là où cette question des rapports entre styles nationaux et d'essayer de comprendre voilà, comment un Allemand peut comprendre l'art italien alors qu'il est allemand, donc voilà, ils n'ont pas du tout la même culture visuelle nationalement, donc comment ça se passe, ça se lie à la question de l'affinité, puisque au fond, on est dans une question pleinement herméneutique. Ce qui est très intéressant avec Wölfflin, et qui en fait est un fil qui court tout au long de sa pensée, même dans ses principes fondamentaux de l'histoire de l'art, donc qui sont une approche plus ouvertement formaliste pour aller vite, c'est toujours l'idée qu'il n'y a pas de voir naturel, il n'y a pas de naturalité du voir. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir. Voir, c'est comme lire, ça s'apprend, en fait. Et vu que il y a cette idée, voilà, que le visuel serait quelque chose d'immédiat et que donc il suffit d'aller dans un musée, d'aller voir un tableau, on le regarde et c'est bon, on le comprend. Alors ça, Wölfflin, son grand combat, c'est de dire que non, bah, comme on apprend à lire, il faut apprendre à voir, et que les formes cristallisées, par exemple, dans un tableau du XVe siècle ne sont pas les mêmes que les formes cristallisées dans un tableau du XVIe siècle, du XVIIe siècle, etc. Et donc, il faut apprendre à voir comment les artistes de ces époques-là concevaient le monde visuellement. Et cette herméneutique qu'il a d'abord projetée sur le plan historique, il a continué à la développer sur le plan culturel. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde la production artistique de l'Allemagne au XVIe siècle, bah, les formes ne sont pas exactement les mêmes, ne sont même pas du tout les mêmes qu'en Italie. Et donc, son idée, c'est d'essayer de voir et d'essayer de comprendre. Alors, ça peut bien sûr se discuter, mais en tout cas, l'idée, c'est de repartir vraiment de ce qu'il dit dans les textes. Il nous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui, à travers les siècles, va perdurer d'un sentiment germanique de la forme, donc au passage de la Renaissance, etc., du baroque, il resterait quelque chose d'une sorte, comme d'une langue visuelle allemande, et qu'on aurait, par exemple, la même chose en Italie. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est en fait, à mon sens, le plus important, et ce qui l'intéresse particulièrement, parce que là, on touche à une question extrêmement personnelle chez lui, à la fin de sa vie, en fait, il fait une sorte de bilan de sa carrière, et il va essayer de comprendre pourquoi, lui, le Suisse allemand vraiment élevé dans une culture germanique, protestante, etc., a consacré presque toute sa carrière à étudier l'art italien, dans des contextes aussi, je pense que là, le contexte de montée des nationalismes et des tensions dans les années 20-30 a dû quand même faire écho chez lui. Pourquoi, lui, de culture germanique, s'est autant intéressé à l'art, à la culture et à l'art italien, et comment, en tout cas, en tant qu'il n'est pas italien lui-même, comment il a pu, en tout cas, développer, il parle de développer un organe pour comprendre cet art. Et donc là, on part sur une herméneutique, donc vous voyez, qui est plus spatiale, géographique ou nationale. Et mon idée, c'était voilà, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et mon article, je l'ai en fait découpé en trois parties et mis sous tutelle d'une grande figure de l'affinité dans la culture germanique. Donc le premier, c'est Dürer, ensuite Goethe, ensuite Humboldt. Guillaume de Humboldt, c'était le philosophe du langage, linguiste, pas Alexandre le géographe. Et l'idée, c'est, alors je vais pas, j'ai déjà pris trop de temps, mais l'idée de base, c'était vraiment de partir de cette de cette fondation de l'affinité chez Goethe. Donc là, je reprends la définition de l'affinité chez Goethe, qui dit, pour Goethe, nous dit qu'il existe une loi inconnue dans l'objet qui correspond à une loi inconnue dans le sujet. Donc ça, c'est vraiment la base de l'affinité, c'est ce que disait Daniel tout à l'heure. Et c'est vraiment le fondement de la réflexion de Wölfflin quand il essaye de comprendre les rapports entre les cultures, en fait, et finalement les échanges, à la fois les échanges entre artistes, les échanges, après, comment un historien de l'art d'une culture donnée peut comprendre une culture qui n'est pas la sienne. Et en fait, cette question du rapport des styles nationaux révèle quelque chose de très profond en histoire de l'art, mais finalement dans toutes les sciences qu'on appelait les sciences de la culture, les sciences humaines, c'est-à-dire qu'il y a dans la loi goethéenne de l'affinité une sorte de pétition de principe qui nous dit on peut comprendre l'altérité, on peut comprendre l'autre. Finalement, en dehors de la question nationale, parce que comprendre le passé, on n'est pas des hommes du 15e siècle, on n'est pas des hommes de l'art. Et finalement, sans cette pétition de principe, une science de l'art, dans le cas de Wölfflin, mais une science humaine en général, serait complètement impossible. Si on ne peut pas comprendre l'autre, si on part du principe qu'on ne peut pas comprendre l'autre et les œuvres autres que soi, on ne peut pas fonder une science de la culture. Et donc, je déploie finalement, alors peut-être qu'on pourrait y revenir s'il y a des questions, mais je déploie un petit peu ce fil tout au long de l'article, en montrant notamment que, contrairement à ce qu'on pense, le fait que Wölfflin s'appuie en particulier pour parler de l'art germanique sur la figure de Dürer, c'est que Dürer, c'est par définition l'artiste germanique qui est ouvert à l'autre. C'est celui qui est allé en Italie, qui a trouvé en Italie de quoi nourrir sa propre création. Donc là, on est à l'opposé de l'Allemagne fermée, repliée sur elle-même et agressive des nazis. Goethe, ensuite, on va dire que c'est le fondement de l'affinité, là, je viens d'en parler. Et la troisième partie que j'ai plutôt articulée sur Humboldt, c'est que Humboldt, il était à la fois ami et correspondant de Goethe, etc. Donc leurs pensées sont très liées. Mais ce qui est très intéressant chez Humboldt, c'est justement sa théorie du langage et sa philosophie du langage et sa théorie de la traduction. En fait, on pourrait dire que dans sa théorie de la traduction, Humboldt met en œuvre l'herméneutique qui est sous-jacente à l'affinité chez Goethe, puisque de la même manière, Humboldt va nous dire que chaque langue est une sorte de monde en soi, que chaque langue nous donne une vision du monde différente. Donc on pourrait croire que chaque langue est refermée sur elle-même. Et en même temps, Humboldt théorise la possibilité de la traduction. Et dans la traduction, ce qui est très intéressant dans la traduction, c'est qu'il part du principe que tout être humain a une faculté de langage. Donc ça, c'est la base. Et sur cette même faculté de langage, on peut donc imaginer une sorte de correspondance ou d'affinité entre les différentes langues. Donc, je suis un peu long ou pas? Il faut que je m'arrête. Je vais conclure parce que je ne veux pas monopoliser. Et ce qui est intéressant, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est que possibilité de la traduction entre différentes langues, qui est en fait finalement ce que défend Wölfflin sur le plan plastique, c'est que Humboldt, que la richesse de la traduction ne vient pas du fait qu'on va complètement aplatir la langue source dans sa propre langue, c'est-à-dire donner quelque chose de très littéral, complètement déplié. Il dit que la bonne traduction, c'est justement une traduction qui arrive à garder dans la langue de réception quelque chose de l'étrangeté de la source. Donc, voilà. Donc l'idée que l'affinité, l'identité s'allie à l'altérité. Voilà. Bon, désolé, c'était un peu décousu. Pardon. Il y a trop d'enjeux.
Un numéro, évidemment, et se compose, pas musicalement, mais et on est venu de nouveau sur un problème où ce qu'on voit dans l'affinité, c'est ce mouvement du même à l'autre et en fait de l'autre au même. Et la question d'une traductibilité, il y avait cette question entre musique et poésie. Ça existe aussi dans les catégories que manipulent les historiens d'art et muséales que vous connaissez tous, parce que j'imagine que vous avez fréquenté le Louvre de temps en temps et vous savez. Et donc on est dans les écoles nationales. Donc la question du national. Et cette question du national se croise avec des questions historiques. Quelle époque? Et donc, on ne met pas ensemble le 17e italien et le 17e français, mais on reste dans le système des écoles. Donc, c'est la question de la... Dans un système où il faudrait, dans un comparatisme, mais l'affinité bouscule le comparatisme parce qu'elle n'en fait jamais un système. Et c'est évidemment ça sa force. De compréhension résolutive ferait qu'on aurait immédiatement une intelligibilité mécanique des ressemblances. Donc ça, les deux exposés qui viennent d'être faits, les deux que vous lirez j'espère, vont dans ce sens. C'est-à-dire, oui, l'affinité permet de penser autrement en contournant le moule de la ressemblance. Donc maintenant nous allons passer la parole à mon voisin. De droite. Et on va. Est-ce que ça va, ça, ou tu veux mettre à ma place?
Non, t'inquiète pas. Non, non, c'est bon, ça va aller.
Je peux.
Vous me dites. Allez-y. Merci. Bah écoutez, d'abord, je voudrais dire le plaisir que c'est pour moi de participer à cette présentation de ce numéro. Je voudrais dire un mot de. Très rapide, simplement de l'estime et de l'admiration que j'ai pour l'ensemble des contributions que mes collègues ont proposées. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi d'avoir pu être associé à ce numéro. Merci beaucoup, cher Laurent Gallois. Merci, Daniel, de m'avoir invité à cette belle fête. Et merci d'avoir aussi attendu que les choses prennent forme. J'ai ma part aussi dans le retard dont tu parlais. Daniel, il se trouve que ce contretemps a un effet heureux, puisque le numéro paraît comme dernier fascicule de l'année 2024, pardon, et nous nous voyons au début de l'année 2025. Ces deux dates marquent exactement le centenaire de la publication par Walter Benjamin dans la revue de Hofmannsthal, les Neue Deutsche Beiträge, de sa célèbre critique consacrée aux affinités électives. La première partie est parue en 24 et la seconde en 25. Bon. Donc initialement, mon idée, c'était de m'inspirer d'une contribution précédente dont Laurent Gallois a eu la gentillesse de rappeler l'existence, dans laquelle j'avais essayé de remettre en jeu le long dialogue, parfois tumultueux, mais sur le fond d'une profonde affinité qui s'était nouée entre Benjamin et Adorno. En l'occurrence, c'était autour de l'article de Benjamin consacré à la reproductibilité technique de l'œuvre d'art. Je m'étais dit qu'autour de cette question de l'affinité et de cette affinité dans l'affinité qui s'était nouée entre Benjamin et Adorno, il y avait quelque chose à faire. Je me suis aperçu assez rapidement que c'était un projet assez démesuré et trop ambitieux. J'en ai conservé simplement un motif que j'espère avoir réussi à traiter donc du côté d'Adorno plutôt, à savoir l'idée que l'affinité pouvait être sinon un concept, une notion, je te suis sur ce point Daniel, une notion qui pouvait nous servir de clé pour penser ce que Jean Starobinski a magistralement su nommer en parlant de la relation critique. Autrement dit, faire de l'affinité, donc une clé de la relation critique. C'est comme ça, c'est en ce sens que Benjamin lit les affinités électives de Goethe, à la façon des romantiques d'Iéna, à la façon de Friedrich Schlegel qui avait fait ce travail sur les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Les affinités électives sont pour Benjamin un roman dans lequel la question de la critique se trouve d'emblée mise en abîme. La critique n'intervient pas comme une instance extérieure. La critique que Benjamin écrit se contente de déployer quelque chose qui serait déjà inscrit dans la prose du roman de Goethe lui-même. Donc Benjamin tire de ce travail, je crois, une leçon qui restera pour lui définitive, et je pense que c'est une conclusion qu'Adorno a très lucidement reprise à son compte. La philosophie ne peut plus s'écrire et s'exposer dans la forme d'une philosophie première, comme un système métaphysique traditionnel. La méthode philosophique, c'est le mot de Benjamin qui lui est très cher. La méthode est détour, et la philosophie construit son discours sous forme de critique en empruntant à chaque fois le détour d'objets singuliers auxquels elle se confronte. Alors, il est vrai que Adorno n'a jamais écrit de texte sur les affinités électives. Il n'a pas, je crois, élaboré de doctrine de l'affinité. En revanche, c'était mon point de départ, Adorno n'a jamais dissimulé l'admiration qu'il avait pour le texte de son ami trop tôt disparu. Cette critique des affinités électives par Benjamin constitue pour lui une sorte de modèle indépassable de ce que la philosophie, en tant que la philosophie est fondamentalement critique, disons le régime critique de la philosophie, peut réaliser. Et à plusieurs reprises, Adorno, à défaut d'écrire une doctrine de l'affinité, à plusieurs reprises, Adorno s'est confié, je dirais, à l'affinité et à ses ressources. Et j'ai essayé, dans le texte que j'ai proposé pour ce numéro, d'identifier quelques lieux de l'affinité qui étaient pour moi autant d'indices de ce régime critique que Adorno a finalement, sous lequel Adorno a finalement inscrit son cheminement philosophique. Donc j'ai commencé par travailler sur un très bref passage des études sur Hegel, dans lequel Adorno a cette formule absolument fulgurante qu'il commente très peu quand il prête à Hegel une certaine conception de la vérité comme étant non pas adéquation mais affinité. J'ai essayé de façon très préliminaire à débrouiller cette déclaration. J'ai retrouvé cette trace de l'affinité dans le cadre de la polémique qui a fait couler beaucoup d'encre entre Adorno et Heidegger autour de Hölderlin, l'un des reproches, et peut-être le reproche à mes yeux fondamental qu'Adorno adresse à Heidegger à cette occasion, étant que Heidegger n'a pas d'affinité avec Hölderlin, nonobstant ses proclamations de proximité. Et j'ai essayé enfin, dans la dernière partie de mon texte, de voir comment l'affinité, alors métamorphosée ou retravaillée sous le signe de ce qu'Adorno n'appelle plus en toutes lettres affinité, mais plutôt convergence, essayer de comprendre comment cette notion de convergence pouvait éclairer les rapports entre art et philosophie, et donc le projet même qui occupe Adorno dans ces dernières années d'une théorie esthétique. Je voudrais dire encore un tout petit mot peut-être des attendus de l'article sur lesquels je ne me suis pas longuement appesanti dans le texte. Comme vous le savez peut-être, Adorno et les penseurs de la constellation de Francfort, le programme d'une théorie critique de la société a connu ces dernières années un certain regain d'actualité. Ce regain d'actualité s'est fait plutôt sous le signe de la philosophie politique ou de la philosophie sociale. Il me semblait que l'esthétique, qui avait constitué au départ la voie royale de la découverte d'Adorno en France, l'esthétique avait un petit peu pâti et pâli face à ce regain d'intérêt pour les questions de théorie de la société. Et j'ai voulu donc montrer aussi comment ce motif de l'affinité jouait pas assurément comme une façon d'exclure les enjeux politiques et sociaux. Nous tenons tous trop aux lumières pour couper ce lien fondateur et fondamental pour notre discipline. J'ai voulu essayer simplement de proposer un contrepoids ou un contrepoint à quelque chose qui m'apparaissait un peu partiel dans un certain traitement d'Adorno, quand on fait d'Adorno, comme on le lit parfois, parce que c'est un critique de l'identité, parce que le concept de ce qu'il appelle dans la dialectique négative le non-identique prend une place centrale. On a tendance parfois à faire d'Adorno un chantre de l'altérité tous azimuts, ce qui me semble pour une pensée dialectique un peu aussi négative que soit cette dialectique, ce qui me semble pour une pensée dialectique un peu court, cette hypostase de l'un de ces moments nous lui fait courir le risque d'une unilatéralité qui me paraît assez appauvrissante. Donc, ce que j'ai voulu, au fond, travailler sous le signe de l'affinité ou des affinités dans ces différents lieux et sans prétendre en unifier le traitement, c'est ce que on s'était pas du tout concerté avec Feriel, c'est ce que j'ai placé à la fin de l'article sous le signe d'un mot qui est très cher à Adorno et auquel Lydia Gör a consacré un très beau texte, qui est la question du schweben, le flottement. Ce qui m'intéressait dans l'affinité, c'était ce que j'ai appelé un jeu de distance et de proximité, qui n'est pas un flou pseudo ou une hésitation qui serait liée à une faiblesse de la pensée, qui est une véritable tension maintenue entre deux pôles et qui empêche l'affinité de se replier sur célébration toujours préoccupante des identités sans faille et monolithiques, et qui peut-être nous permet de prendre conscience de certaines facilités qu'il y aurait dans l'invocation du un peu mécanique et tout aussi inquiétante parfois de la différence comme telle, comme si ces choses-là existaient. Donc ce qui m'a intéressé, c'était ce schweben, ce jeu, ce flottement du proche et du lointain, du même et de l'autre. J'ai eu l'imprudence d'utiliser une formule dont je ne suis évidemment pas l'auteur pour intituler mon article. J'ai placé mes réflexions sous le signe d'un par-delà le même et l'autre. Rétrospectivement, c'était peut-être un peu présomptueux. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était ce jeu qui est pour moi le lieu dans lequel la dimension de la critique sous toutes ses formes, y compris de la critique philosophique, se déploie. Je vais peut-être m'en tenir là, si vous voulez, pour qu'on ait le temps ensuite d'une discussion. Et je te remercie encore, Daniel.
Donc, comme vous voyez, le fil de la critique se joue d'une communication à l'autre. Et tu as fait une remarquable introduction à ce que va pouvoir nous présenter Philippe Orfalino, parce qu'on est arrivé à la question du politique. C'est comme ça, dans la cheville morale que tu décris. Donc,
d'accord.
Oui, c'est ça. Vas-y par là. Mais, si tout le monde s'en va, ça va. Ah, mais oui, c'est ça.
Voilà.
Bien sûr, on l'entoure un peu parce que. Comme ça, on remet l'engin.
Bien, je peux commencer ?
Bien sûr, je te donne la parole.
Merci beaucoup. mais d'abord. Je dois dire que j'ai pu faire cet article simplement parce que j'ai bénéficié de la confiance de Daniel Cohn et de Laurent Gallois, et je les en remercie très, très chaleureusement. Alors ma contribution, comme il a été dit, est un petit peu décalée dans la mesure où elle ne relève pas de l'esthétique, mais elle relève bien des affinités, puisqu'il s'agit ici des affinités au sens politique, parce qu'elle concerne ce qui réunit, rassemble, dans un mouvement protestataire, des personnes vulnérables. Et sur le plan politique, l'affinité se transforme en alliance. Alors, l'article a pour objet la théorie politique des rassemblements proposée par Judith Butler, dans un livre paru initialement en anglais en 2015 et traduit en français, je crois, en 2016, sous le titre « Rassemblement ». Le titre anglais est plus intéressant, parce qu'il manifeste assez sensiblement le mélange d'ambition et de modestie de l'autrice, puisque la traduction littérale du titre anglais original est, en gros, note pour une théorie performative des assemblées. Donc il y a une dimension ambitieuse, une théorie performative des assemblées, mais ce ne sont que des notes. Donc on a
On peut choisir entre l'ambition et la modestie ou une certaine position entre les deux. Alors, ce livre est inspiré d'événements politiques survenus précédés sa conception. Le mouvement Occupy Wall Street, puisque Judith Butler y était passé et avait donné quelques formules sibyllines, qui est d'ailleurs annoncé l'ouvrage, mais aussi les printemps, la place Tahrir, au Caire, et puis d'autres mouvements qui ont marqué les années 2010. Donc il y a un objet empirique qui inspire. Il est question des murs, il est question de la souffrance des corps, il est question de la vulnérabilité, mais et de ces événements précis, mais en fait le livre ne livre aucune analyse politique, sociologique de ces événements. Et on n'apprend rien en fait sur ces événements. Ces événements sont là en toile de fond, ils inspirent la réflexion, mais la réflexion est strictement conceptuelle. Et donc en fait on a affaire à un livre de philosophie politique avec un très haut niveau d'abstraction. Alors, dans ses travaux, il faut noter que le choix de cet objet était un pari et commandé par l'agenda politique, mais il était assez osé pour cette autrice, parce que dans ses travaux précédents, pour lesquels elle est davantage connue, sur le genre, le deuil, la violence, la dépossession, elle considère les individus à partir des normes au nom desquelles leur corps, leurs pratiques sont stigmatisées. Elle privilégie l'examen de leur souffrance ou de leur résistance. Donc le point commun à tous ces travaux antérieurs, c'est l'attention aux épreuves. Ici, il y a bien l'expérience des individus, mais et leur signification politique. Et donc ce travail peut être, on peut considérer que pour cette autrice, il y a un défi qui est semblable à celui que Sartre s'était donné dans la critique de la raison dialectique. Un philosophe qui avait d'abord travaillé sur la conscience, à partir de la phénoménologie puis de l'existentialisme, qui avait une philosophie centrée sur l'individu, ses interactions avec les autres, mais pas, qui ne travaillait pas sur les groupes, s'était donné, et même l'histoire, n'est-ce pas ? Alors, par chance, le livre de Judith Butler est beaucoup plus court. Il n'est pas beaucoup plus compréhensible. Il est difficile, mais il est quand même beaucoup moins difficile. Il n'y a pas la performance mentale qu'est la lecture, à mon avis, quasi impossible, de la critique de la raison dialectique. Il n'a sans doute pas été produit dans les mêmes conditions. Donc, Judith Butler se donne pour objet les corps politiques, puisqu'elle explique que ces mouvements protestataires, ces rassemblements, constituent des corps politiques. Alors, je ne vais pas restituer l'ensemble de son analyse, ni la mienne. Ce que je fais dans ce travail, c'est que je prends le livre comme pour un livre de philosophie, pour un travail conceptuel qui est proposé, et j'analyse trois ressources conceptuelles qui mobilisent identité, une théorie de la souveraineté, et puis le fait qu'elle prête une fonction constitutive au performatif. Alors je ne vais pas rentrer dans ce détail parce qu'il faudrait que j'expose ce que dit Butler, en plus après il faudrait que j'expose ma critique, et là il faudrait beaucoup de temps. J'explique que le concept d'identité qu'elle prend, qui est très fréquemment mobilisé dans l'histoire de la philosophie, est malheureusement, je dirais, pas valable, il ne tient pas la route. J'explique qu'elle prête beaucoup trop de puissance au performatif. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer pourquoi le performatif ne peut pas avoir une fonction constituante ou instituante. Alors, je note quelque chose d'un petit peu étonnant, mais ça fait partie de la manière de Judith Butler. Le titre annonce une théorie performative des assemblées. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une théorie. Mais en fait, il y a juste une allusion à la puissance du performatif, et il est fait référence à Derrida, qui a proposé plusieurs textes. Derrida fait une analyse du performatif, mais elle fait référence à une conférence de Derrida qui est tout à fait remarquable, qui est sur les 200 ans de la déclaration d'indépendance américaine, et Derrida analyse cette déclaration comme un performatif qui crée l'institution. Et donc, du coup, pour comprendre Butler, je suis obligé de faire ce qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que je cite Derrida et j'analyse ce texte de la conférence de Jacques Derrida, et j'essaie d'expliquer qu'il y a une prémisse cachée dans le raisonnement de Derrida, c'est que le verbe instituer peut se conjuguer à l'actif. Nous instituons, vous instituez. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi c'est absolument impossible. Mais donc, je suis amené à démonter ce mécano très subtil. Et je voudrais peut-être, pour donner une idée de la manière dont Judith Butler joue avec les concepts, donner seulement l'exemple de sa théorie de la souveraineté. Puisqu'elle dit les mouvements protestataires forment un corps politique. Alors, quand elle dit ça, on ne comprend pas. On dit qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que nous avons un concept de souveraineté, au moins de manière intuitive, mais on peut en faire précise depuis son invention en français par Bodin. Généralement, on considère qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire, ou la souveraineté populaire, c'est après Bodin, mais la souveraineté à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y ait souveraineté, qu'il y ait un souverain. Dans une unité politique, il y a une instance qui a la capacité de créer la loi et de l'imposer pour tous. Quant à la souveraineté extérieure, ce qu'on appelle le fait que cette unité politique est reconnue par les autres unités politiques à l'extérieur. Et en fait, elle va transformer la souveraineté et en quelque sorte le retourner, puisqu'on va apprendre que les protestataires, en fait, incarnent la souveraineté populaire. L'État ou les représentants élus, elle les appelle souveraineté d'État. Alors que pour nous, la souveraineté d'État, c'est ce qui est reconnu. Et donc, s'opposent les protestataires et tout ce qui est État, élu, instance politique. Et donc, en quelque sorte, l'ensemble de sa vie politique se transforme en une figure, un petit peu comme Althusser avait transformer l'État à partir de l'interpellation du policier, disant ou là-bas, eh bien, la politique est vue à travers l'opposition du policier et du manifestant. Et alors, ça se traduit de manière tout à fait remarquable. Elle va constamment faire un parallèle entre différents mouvements protestataires et le mouvement d'indépendance et de formation des États-Unis. Et c'est là qu'elle mobilise donc le performatif de Jacques Derrida. Et la fin de mon analyse consiste à poser la question du statut de cette réflexion politique. Est-ce que c'est vraiment une réflexion politique ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une réflexion morale qui a la couleur de la politique ? Alors, cette réflexion m'amène à m'intéresser aux autres travaux de Judith Butler qui lui ont valu le succès. Enfin, c'est plus que le succès, parce que c'est une star internationale. Et donc, revenir notamment, sans analyser son premier travail, le livre qui l'a rendu célèbre, c'est « Troubles dans le temps dans », mais aussi à sa thèse et à son qui explique son rapport à la France, puisque c'était une thèse sur les lectures françaises de Hegel. Et ça s'appelle « Le sujet et le désir ». Et donc, pour bien comprendre Butler, elle appartient à l'histoire du mouvement féministe. Et elle appartient à ce que j'appelle la troisième couche. Ma manière de découper l'histoire, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'histoire du féminisme, est grossière, mais en tout cas, elle m'aide à comprendre. Il y a, d'abord, c'est les suffragettes, donc le droit politique, le droit de vote des femmes. Le deuxième moment, peut-être symbolisé grossièrement par Simone de Beauvoir, c'est l'idée que le fait d'être les attributs
que l'on prête aux femmes dans la manière de vivre. Simone de Beauvoir, tout un passage sur la poussière. Par exemple, pourquoi les femmes devraient faire le ménage? Bon, c'est une idée aussi simple que ça. Bah, l'idée très simple, qui pour nous est maintenant très banale, c'est que les attributs sociaux des femmes ne relèvent pas de la nature, mais bien de la société. Bon, ça, c'est la deuxième couche. La troisième couche, c'est parce qu'elle est le fait d'innovations intellectuelles produites par des intellectuelles lesbiennes françaises et américaines.
C'est au milieu des années 70.
Elles vont lier le féminisme et l'inégalité des sexes au rejet de l'homosexualité. Pas le temps de rentrer dans le détail. Tout ça, si vous voulez, est fait au milieu des années 70. Butler n'introduit aucune innovation là-dedans. Et c'est elle qui va emporter la mise. Pourquoi? Parce qu'elle intervient 15 ans après. Troubles dans le genre, c'est 1990. Donc 12, 13, 15 ans. Simplement, les femmes qui ont innové dans les années 70 sont des écrivaines, des anthropologues, des sociologues. Il n'y a pas de philosophe. Or, Judith Butler, c'est une philosophe. Et il ne suffit pas, pour comprendre sa pensée, de dire que c'est une femme. Il se trouve que la couche philosophique qu'elle a traversée, il y a beaucoup d'Allemagne, d'Adorno, c'est très important pour elle, l'école de Francfort, elle fait son post-doc en Allemagne, et c'est justement en Allemagne qu'elle découvre Foucault, Deleuze, etc., et Derrida. Et donc la couche philosophique qu'elle traverse, c'est, dans cet aspect-là, c'est Derrida-Foucault. Et c'est à partir de Derrida-Foucault qu'elle reprend, qui avait été déjà travaillée au milieu des années 70. Ça veut dire qu'elle va penser la question du genre qui ne m'intéresse pas ici, à partir d'une opposition qui vient de Foucault et qui est dans sa thèse sur les lectures françaises de Hegel, qui est l'opposition et du pouvoir. Et donc, il faut que j'arrête, j'ai été trop long. Je finis mon texte sur une interrogation, sur la possibilité d'avoir une pensée politique à partir de l'opposition sujet-pouvoir. Et j'essaye de montrer qu'on ne peut pas avoir une vraie pensée politique, on peut avoir une pensée contestataire, mais pas une pensée du corps politique, une pensée de l'union politique, et que d'une certaine manière, ce qu'invente Butler, c'est la version queer, de la politique d'Alain. Et vous savez que ce que c'est que la politique d'Alain, le grand philosophe de la Troisième République, voire est dangereux, mais inévitable. Et le problème de cette théorie un peu simple, pas ce qu'est le pouvoir et ce qu'il peut faire. Donc voilà, raconter un peu trop longuement le contenu du papier.
Alors maintenant, il y a une chose que je vais te demander, c'est quel rapport avec la finité tu fais? C'est-à-dire que dans ton texte, tu parles beaucoup de l'action de l'alliance, du rassemblement, donc la façon dont les gens... Et est-ce que tu vois là une place pour modifier les choses par rapport à ce qui a été dit dans un contexte assez... dans une culture sur les arts? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là qui se... par rapport à ce qu'on a à peu près mis en place sur l'affinité?
Il n'y a pas grand-chose parce qu'elle en parle très peu.
Oui.
Mieux le saisir, ce rapport, davantage insister sur ses autres livres, sur l'affinité.
Oui.
Où là, j'aurais peut-être trouvé quelque chose. Mais j'avoue, je n'ai pas eu le courage de lire très longuement, passer des jours. Et je pense que c'est là qu'on trouve dans ce livre. C'est. Ils ont des points communs dans leur précarité. Qu'elles viennent de leur situation de minorité. Et elle souligne quelque chose, telle qu'elle pourrait être pensée dans une pensée marxiste. Nous avons la même situation, nous avons des intérêts communs, des adversaires communs. C'est pas ça. Commun, mais elle dit très bien, et quand j'en avais discuté avec elle, j'étais autorisé à penser qu'il y avait un peu de votre affinité, elle dit, mais choisi. Il y a quelque chose aussi qui s'impose à nous. Comment on est obligé de se côtoyer des côtoyer. Il y a donc quelque chose dans l'affinité des protestataires, il y a quelque chose qui n'est pas seulement du délibéré, mais quelque chose qui nous est donné et qui s'impose à nous. Donc, c'est ce point, me semble-t-il, qui est en esthétique.
Oui, et il y a l'idée que ce qui réunit les gens n'est pas forcément ce qui serait la base possible de la réunion, à savoir une ressemblance. Donc, c'est aussi un mode de fonctionnement. De la ressemblance ne marche pas. Est un assemblage en fait.
La partie de l'article sur sa conception de l'identité, elle n'arrive pas à penser les entités collectives ou les corps politiques parce qu'elle les pense à partir d'un concept d'identité qui présuppose qu'il y a identité collective. Donc son modèle, c'est le modèle classique dans l'histoire de la philosophie de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être identique ? C'est penser en termes de... C'est tout ce que Wittgenstein a au nom plutôt de l'idée de critère d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une conception descriptive de l'identité. Et quand on passe au niveau collectif, on fait dans sa théorie constitutionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un corps politique ? Ça suppose l'identité, et pour lui, l'identité, c'est l'homogénéité. Et donc, comme je l'explique dans l'article, si on est des gens comme Judith Butler, mais il n'y a pas qu'elle, il y a tous les penseurs post-marxistes tombent dans ce piège, ils sont obligés de dire que le corps politique n'existe pas vraiment, tout en existant un peu, parce que son existence est inacceptable, c'est une homogénéité. Alors, l'erreur, c'est de penser que l'identité collective suppose l'homogénéité.
Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer la parole à Paul.
Merci. Merci beaucoup.
Merci de ta contribution.
Mais oui, alors, je suis très heureux d'être ici. Je remercie évidemment Laurent et Daniel de m'associer. Parce que je n'ai rien fait, du tout, et j'ai le plaisir d'être ici et d'avoir lu avec beaucoup d'attention et de plaisir le volume que je vous recommande. En fait, je peux être là pour faire la promotion du numéro, servir d'homme sandwich éventuellement, parce qu'au fond, j'ai pas énormément de choses à dire, sinon, essayer de vous ramener vers le XVIIe siècle. On s'est un petit peu éloigné, donc on fait une sorte de retour vers ce siècle que je connais un petit peu à travers Leibniz. Et pour vous parler, au fond, parce que l'usage, Leibniz ne fait pas un usage du terme affinitas ou affinité en français, il y a quelques occurrences, mais je pense qu'il y a un terme qui correspond dans son lexique philosophique, autant le dire tout de suite, c'est le terme d'expression. C'est le terme d'expression. Et pour le comprendre, je voudrais revenir au terme lui-même tel que le latin l'exprime. Donc je reviendrai à l'adjectif affinis en latin, d'où vient affinitas, qui correspond à trois sens, qu'il est important, me semble-t-il, d'avoir en tête. Le premier, affinis, c'est limitrophe, voisin, ce qui touche. Hein, ce qui est, vous avez deux terrains, eh bien, ils ont une affinité dans la mesure où il y a une barrière entre les deux. Bon. Le deuxième sens est intéressant, affinis renvoie à ce qui est mêlé à, alors c'est très intéressant, une expression latine, être complice, et notamment être complice d'un crime. Hein. Être complice d'un crime, c'est avoir une affinité, alors peut-être avec d'autres, avoir affaire à un crime, un forfait qui a été commis. Troisième sens intéressant, toujours de affinis, c'est le sens de parent par alliance. Et c'est lié, d'ailleurs Daniel l'a rappelé, et elle le rappelle dans son propos liminaire, c'est lié au contrat. Alors, affinitas vient de cet adjectif affinis, et on retrouve deux sens principaux, donc le sens premier de voisinage, l'affinitas c'est le voisinage au sens concret, et le deuxième qui désigne l'alliance par le mariage, c'est-à-dire que Si ma sœur épouse un autre homme, enfin épouse un homme donc par là même, mon beau-frère a une affinité avec moi. Hein. Et donc les deux familles ont une affinité de premier degré parce que il y a le mariage entre ma sœur et cet homme. Et il y a d'ailleurs Leibniz évoque hein, ce sens de la du lien de parenté, pardon, je cherchais le terme, du lien de parenté, avec les différents degrés, et qui est entre les deux familles, dès lors qu'il y a une affinité, et a fortiori, donc plus les degrés d'affinité sont loin, plus la possibilité éventuellement d'un mariage se fait. On parle même d'affinité spirituelle, hein, l'affinité spirituelle, c'est la relation entre le parrain et la marraine, et le filleul ou la filleule. Alors ce qui est intéressant, si on passe maintenant au français, à l'affinité en français, c'est que, et c'est un petit peu surprenant, parce qu'au XVIIe siècle, justement, ce n'est pas un hasard, au XVIIe siècle, dans le dictionnaire de l'Académie, dans la première édition, on retrouve ces sens latins, bien sûr, que j'ai évoqués, mais on trouve deux sens nouveaux qui s'ajoutent, et qui sont plus proches du sens d'affinité qui est courant. Le premier, c'est la conformité, la convenance du rapport qui existe entre plusieurs choses, des choses différentes. Deux exemples sont évoqués qui sont intéressants. La physique et la médecine ont une grande affinité. L'autre exemple intéresse Daniel, mais aussi Rémi, je pense, c'est la poésie et la peinture ont une grande affinité. Et je pense que c'est Lud Pictura Poesis qui est évidemment visé par là. Donc poésie, il y a une affinité entre poésie et peinture. Donc le premier sens, conformité, convenance d'un rapport entre deux choses qui sont différentes et qui sont posées. Deuxième sens qui s'ajoute au sens latin, je vous cite le passage de la première édition de l'Académie, la société de l'habitude que des personnes ont ensemble. J'aime bien la société de l'habitude que des personnes ont ensemble. Autrement dit, l'affinité, c'est ce commerce fréquent que des personnes ont entre elles et qui crée quelque chose comme une certaine connivence ou un accord de goût. Le dictionnaire ne développe pas, c'est moi qui développe un tout petit peu, mais il y a l'idée d'une fréquentation qui crée quelque chose comme une certaine connivence entre les personnes. À ces deux sens du XVIIe siècle, vont s'ajouter au XVIIIe siècle un sens, qui est le sens chimique, alors qui est lié évidemment aux travaux de Geoffroy notamment, en chimie. Dans le dictionnaire de l'Académie de l'édition 1762, on s'ajoute le terme de chimie, c'est la disposition que des substances ont à s'unir ensemble, et des substances évidemment de nature différente. Alors, quels enseignements, rapidement, tirer de ces remarques étymologiques et linguistiques pour parvenir, pour aller à Leibniz? Il me semble qu'il y a deux sens principaux, et vos exposés, me semble-t-il, évidemment, tournent autour de... Je ne vais rien inventer, je ne vais même rien vous apprendre, mais il y a deux sens principaux qui se dégagent à partir de ce réseau de sens. Le premier, c'est la proximité. C'est la proximité. Ces deux objets communes, donc deux objets qui se touchent, mais sans nier leurs différences, sans que ça implique une identité, et j'irai même plus loin, qui exclut cette identité, qui exclut une fusion, une confusion. Mais il y a le point commun de la limite, de la frontière, c'est le terrain de mon voisin qui délimite nos propriétés respectives. Nous n'avons rien de commun sinon la barrière. Le point commun, c'est la limite, c'est mon voisin. C'est mon voisin. Alors, d'ailleurs, je retrouve un petit peu ce qu'a parlé Philippe avec les mouvements protestataires. Bah, le premier point commun, c'est que c'est mon voisin dans la rue, dans Occupy Wall Street. C'est d'abord ça. C'est celui qui est à côté de moi et qui gueule comme moi, aussi fort ou plus. C'est ce sens-là qu'on retrouve chez Leibniz quand il parle, et il y a cette expression d'affinité, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, quand il parle de l'affinité du plaisir et de la douleur, et c'est précisément cette proximité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le plaisir où il y a des demi-douleurs, où la douleur n'est jamais très loin, et il s'appuie sur un texte célèbre du Philebe de Platon pour l'illustrer. Alors cette proximité, elle est également indiquée par la parenté par alliance dont j'ai parlé, puisque deux familles sont liées sans se confondre, parce que elles se touchent, parce qu'il y a un mariage qui les unit, confondre là encore. On retrouve aussi cette proximité dans la complicité dans le crime dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, quand on est trempé dans la même affaire, dans le même forfait. Il y a une association, même s'il y a une participation indirecte. Ça peut être une complicité par omission, sans trop le savoir, involontairement. Bon. Mais on a partie liée à. Alors, ce qui m'intéresse dans ce réseau de termes, c'est, vous l'avez bien compris, c'est que l'affinité dans tous ces cas marque une relation qui naît par un intermédiaire. C'est-à-dire que ça suppose en fait un troisième terme. L'affinité n'est possible entre deux choses que s'il y a un troisième terme. Il y a toujours un troisième larron de toute façon. Alors ce troisième larron, il est incarné par plusieurs figures. Soit c'est la limite, la frontière, le contrat passé. Hein, c'est parce qu'il y a un contrat que deux personnes qui n'ont rien à voir tout d'un coup sont liées. Hein, c'est mon beau-frère. Bon, il faut l'accepter d'ailleurs comme tel, hein, avec tout ce que ça implique. Ou le baptême qui fait que le parrain, la marraine, hein, y a le filleul, il y a tout d'un coup un lien particulier, mais par autre chose, c'est pas volontaire, c'est pas moi qui ai choisi. Hein, c'est pas moi qui ai choisi mon beau-frère, j'insisterai pas là-dessus d'ailleurs. Ou dans le cas du crime, eh bien, on peut parfaitement être tous concernés par une affaire et en fait n'avoir aucun rapport les uns avec les autres, hein, et se trouver par hasard mêlés à quelque chose dont nous n'avons évidemment pas voulu de rapport initialement. Et c'est la raison pour laquelle ça ne conduit pas, je pense que, bon, Daniel l'a très bien dit, elle le dit page 3 notamment, l'affinité est non mimétique. Et je pense que ça résume très bien cette idée qu'il n'y a pas de ressemblance, ou il n'y a pas de ressemblance automatique, encore moins d'identité. Et l'image que j'ai beaucoup aimée de la cage et de l'œuf, hein, de Magritte, montre bien cette affinité par référence à un troisième terme qui est que tout d'un coup les deux objets, la cage et l'œuf, il y a une affinité parce qu'on pense éventuellement à un troisième. C'est peut-être l'enfermement, c'est peut-être la prison. Dans les deux cas, il y a l'œuf à l'intérieur, il y a quelque chose, et bien dans la cage, vous avez compris. Donc il y a l'idée que l'affinité est introduite en dépit des différences, parce que donc il y a un troisième terme qui souligne, qui à la fois marque un point commun et une différence par la même, qui fait que ce qui est étranger, ce qui est sans rapport devient proche, devient familier, devient lié, ou l'étranger devient par le mariage. Alors, dernier élément avant de dire deux mots de Leibniz, outre la proximité, c'est bien sûr la convenance, la conformité, l'accord, sur un fond, là encore, de différence. Et ce qui est intéressant, et ce que vos exposés et la lecture de vos textes a très bien montré, me semble-t-il, c'est que là, on trouve un troisième terme, me semble-t-il, pour comprendre l'affinité, par la notion de correspondance. C'est-à-dire la convenance ou l'accord se fonde sur ce troisième élément qui permet d'établir une correspondance entre deux choses, ou plusieurs même, hein. Et ce troisième terme, ça peut être une forme, une structure, une méthode ou une loi, et évidemment l'aphorisme de Goethe est tout à fait est un bon exemple, hein. Il y a une loi inconnue dans l'objet qui correspond à une loi inconnue dans le sujet, hein. C'est ce troisième terme, c'est la loi justement qui permet l'affinité. Alors soit deux lois se répondent, mais elles sont comme telles inconnues. Alors, j'ai évidemment pensé, parce que c'est quelque chose qu'en esthétique on connaît bien, c'est le je ne sais quoi, hein, ce je ne sais quoi dont Leibniz parle d'ailleurs, hein, comme étant une illustration du clair confus, qui fait que l'homme de l'art est capable de dire, en regardant le tableau, ton portrait, il est mal fichu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mal fichu. Ou au contraire, donc, il y a quelque chose qui choque dedans, qui fait que c'est mal fait, mais je ne saurais pas dire en quoi. Ou au contraire, il y a quelque chose qui est réussi et qui est inexprimable comme tel. C'est de l'ordre précisément de cette loi inconnue. Alors, je passe dans les deux minutes qui restent, ou l'une minute et une qui reste, à Leibniz, parce que un dernier mot, le troisième terme, on peut le trouver aussi au sens chimique, dans le sens où le troisième terme, c'est le résultat de la combinaison des deux substances différentes qui donne un troisième élément qui est irréductible aux deux qui l'ont donné naissance. Le lien avec le concept d'expression, il est évident dans la mesure où qu'est-ce que l'expression pour Leibniz ? Il l'a défini dans une lettre à Antoine Arnauld. Une chose exprime une autre lorsqu'il y a un rapport constant et réglé entre ce qui peut se dire de l'une et de l'autre. C'est ainsi qu'une projection de perspective exprime son géométral. Encore un exemple d'ailleurs esthétique, c'est pas sans raison. Alors, il y a l'idée qu'il y a un rapport d'expression lorsqu'il y a une correspondance que l'on peut faire entre les propriétés de A et les propriétés de B, entre les caractéristiques de l'exprimant et les caractéristiques de l'exprimé, de sorte qu'il y a une analogie de rapport. Et cette analogie de rapport, ce qui est très intéressant et ce qui déroute les lecteurs et commentateurs de Leibniz, c'est que la multiplicité des exemples qui illustrent cette expression. Exemple, l'équation exprime le cercle, le discours exprime les pensées, l'effet exprime sa cause, le modèle exprime la machine, et les sentiments, les perceptions, les pensées de l'âme expriment les mouvements du corps. Alors, cette notion d'expression, elle a évidemment une application dans le système de l'harmonie préétabli, puisqu'il s'agit de penser, selon cette hypothèse philosophique dont Leibniz est l'auteur, que les états du corps, c'est-à-dire les mouvements qui agitent le corps, ont leur correspondant dans l'âme, c'est-à-dire les différentes perceptions, sentiments, pensées de l'âme, de sorte qu'il y a, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que nous avons deux séries de phénomènes exactement parallèles, qui n'interfèrent pas, parce que c'est ça qui est important. Pour qu'il y ait correspondance et affinité, il ne faut pas qu'il y ait rapport de causalité, il n'y a pas interférence, mais il y a expression et affinité. En quel sens ? Eh bien, en ce sens qu'il y a ce que Leibniz appelle une connexion naturelle. Il y a une connexion naturelle, c'est-à-dire une pensée à son correspondant dans le corps, ou dans les mouvements, dans les traces qui sont observables dans le cerveau par l'anatomiste. Mais ce n'est pas la même chose, ce sont deux séries de phénomènes indépendants, mais tels que on peut, à chaque pensée, faire correspondre quelque chose dans le corps. Un mouvement de corps qui, non pas l'explique, mais y correspond et l'accompagne. Et ce qui est intéressant, et je termine vraiment là-dessus, c'est que Leibniz se dit, contrairement à ce que pensent les cartésiens, c'est-à-dire en fait les malbranchistes, peu importe, qui considèrent qu'au fond, l'association qui est faite entre un mouvement dans le cerveau et une perception dans l'âme est purement arbitraire. C'est Dieu qui l'a instituée, c'est-à-dire qu'il a fait que à ce mouvement dans le corps correspondrait une douleur ou un plaisir. Il aurait pu inverser les choses, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire que ce qui accompagne ordinairement chez nous une douleur, ça soit en réalité, ça produise du plaisir. Bon. Ce que répond Leibniz, c'est qu'il dit que justement cette correspondance n'est pas du tout arbitraire, elle n'est pas arbitraire parce que même si il y a pas identité entre les états de l'âme, du corps, il y a quelque chose comme une affinité, une connexion naturelle. Parce que, et je donne une citation, cette manière dont l'âme représente ce qui se passe dans le corps est un rapport d'ordre, comme une ellipse et même une parabole ou une hyperbole ressemblent en quelque façon au cercle dont elles sont la projection sur le plan, puisqu'il y a un certain rapport exact et naturel entre ce qui est projeté et la projection qui s'en fait, chaque point de l'un répondant suivant une certaine relation à chaque point de l'autre. Il dit que c'est nécessaire qu'il y ait cette connexion naturelle, que ça soit pas quelque chose d'arbitraire, entre les états mentaux et les mouvements qui agitent le corps. Si c'était purement arbitraire, eh bien il faudrait admettre qu'un peintre, c'est l'exemple que prend Leibniz, qu'un peintre pourrait représenter la coupole de Saint-Pierre de Rome par une pyramide. Eh bien, ça n'est pas arbitraire. Passons que un peintre pour représenter la coupole de Saint-Pierre ne le ferait pas par une pyramide, eh bien de la même façon Dieu ne peut pas associer un mouvement du corps de manière arbitraire à une pensée de l'âme. Il faut qu'il y ait une certaine affinité entre les deux. Alors le troisième thème dans le cas de l'harmonie très établie, quel est-il? Eh bien il semble bien que ce troisième thème ça soit Dieu lui-même si on suit Leibniz, puisque l'harmonie très établie, lui qui en est l'auteur, c'est précisément Dieu dans le système leibnizien. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu vite, mais en même temps, j'ai largement dépassé mon temps de parole. Je vous remercie.
Une vingtaine de minutes. J'ai trouvé très intéressant de vous entendre. Parce que entre, je dirais, le dossier tel qu'il est constitué, on en a parlé, progressif, en fait, je trouve que se dégagent de belles unités dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je partirais de par-delà le même et l'autre, d'une certaine manière, c'est en affinité ou en résonance à ce que vous avez dit, Philippe, à travers tout ce que vous avez pu développer sur identité, dans la critique de Judith Butler, poésie et musique et interculturalité, il y a des résonances, alors j'emploie le mot résonance forte, c'est-à-dire cette notion d'affinité qui se cherche, et Schweben, je trouve ça, oblige à être en suspension. Voilà, une espèce de suspension de tous les termes qui figent. Et au fond, c'est ce que montre le dossier. C'est-à-dire que quand on fige, la pensée meurt, d'une certaine façon. Les liens ne se font plus, les résonances ne se font plus. Et passer par la Nietzsche et l'expression, telle que vous l'avez fait, Paul, ça donne une vitalité, je trouve, à cette notion d'affinité. Évidemment, en démarrant avec les précisions lexicales que vous avez faites à partir du dictionnaire de l'Académie. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très heureux de vous entendre. Et on peut peut-être prendre quelques questions. Nous avons le temps. Voilà, je ne sais pas si ça a bien marché. Bon, très bien.
Voilà, donc c'était une question justement avec autour de affinité et résonance. Parce que le terme en fait de résonance est beaucoup utilisé aussi, je pense à Hartmut Rosa et par d'autres. Et puis c'est lié aussi à un phénomène physique, et parfois d'amplification, enfin dans la résonance. Et justement en fait, je me posais la question de par rapport à ce dossier, puis ce lien de parenté. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est présent aussi, enfin dans la manière de penser l'affinité, ou l'affinité, comme vous l'avez dit, c'est plutôt ce côté un peu flottant, la résonance, il y a quelque chose d'un lien qui peut être éventuellement destructif, enfin si on pense au génie civil, enfin la résonance de pont, etc. Enfin, disons que dans l'art, ça c'est sans doute un peu différent, mais autour de ces deux termes, affinité, résonance. Enfin,
l'affinité, elle tue. Ottilie meurt. Donc l'affinité n'est pas bénigne. Elle est énigmatique, elle est tapie. Et il y a une révélation de sa force qui peut conduire à une sorte de renoncement complet à toutes les modalités qui seraient celles de du contrat, de l'alliance, de la différence dans quelque chose qui deviendrait. L'affinité, elle travaille à contre-temps de l'harmonie. Et pour autant, elle désigne des unions possibles, mais ce sont des unions qui doivent rester cachées, doivent continuer à agir, mais sur un mode où l'énigme ne se résout pas. Parce que si elle devient trop visible, elle est trop forte, elle est trop puissante. Et donc, la façon dont Ottilie meurt est très intéressante. Elle cesse de manger, elle s'éteint. C'est ce qui correspond à, par exemple, au lit Resignation. Si elle vient au jeu, il va y avoir des ravages. En revanche, force, si elle reste tapie, est étonnante et permet des inventions, des progressions ou des résolutions. Donc, oui, c'est pas du léger, l'affinité, en fait. L'affinité, c'est charmant. Bien du tout, au contraire. Il faut surtout pas la penser comme ça, parce qu'elle est, il y a une violence qui est liée à... Et il faut la respecter, cette part de l'ombre. Et ça, c'est très... Et c'est un problème par rapport à ce que... En fait, vous avez bien senti notre volonté de sauver les lumières. Non, il faut que ça reste dans l'ombre, parce que autrement, ça risque d'être destructeur.
Merci. Vous avez évoqué dans votre présentation sur Leibniz Dieu comme le troisième ou quatrième élément qui serait peut-être, voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est dans la définition de Goethe sur cette loi inconnue qui se trouve dans le sujet, dans l'objet, c'est aussi Dieu qui est sous-entendu
de Goethe. Alors Dieu. Goethe est spinoziste et leibnizien. Donc son Dieu n'est pas un Dieu. Une religion incarnée. Du sacré et d'une transcendance. Dans l'immanence même. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective immanente et cette immanence a une possibilité de développement qui va complètement par-delà notre entendement, qui bouscule notre sensibilité. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle Dieu. En tout cas, si on appelle... Il peut y avoir, à condition qu'il ne soit pas corporéifié dans un corps de religion.
Ce lien établi pendant la dernière intervention entre... la notion d'affinité et d'expression, qu'est-ce que cela vous inspire ou est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ben, je pense que c'est une question à creuser.
C'est à toi, là, les adorniens.
Je suis désolé.
Je vais gagner du temps. Je vais par rappeler pour tout le monde qu'il y a un concept qui, que je sache, a été au moins fortement marqué de son empreinte par Leibniz, qui joue un rôle très important pour Adorno quand il essaye de penser ce qu'est une œuvre d'art, c'est le concept de monade. Donc je pense que le fil leibnizien court chez Adorno. Alors, le concept d'expression reste pour moi, je le dis comme ça, si vous permettez, il est un peu tard, ça reste un des concepts vraiment de la théorie esthétique mieux que nous, Zoé, est systématiquement travaillé dans une relation de polarité avec ce qu'Adorno appelle construction. Adorno, me semble-t-il, pense ce qu'il appelle l'expression comme dans le sillage d'une certaine compréhension de la mimésis qui n'est pas simplement, Platon avait condamné, mais qui est plutôt le faire comme, donc quelque chose qui a plus à voir avec une certaine compréhension de la ressemblance, l'expression chez Adam aussi a une certaine corporéité ou en tout cas une certaine inscription dans le corps, une certaine empreinte du persiste jusque dans la mise en forme. Là, j'avoue mon ignorance et mon incapacité à répondre sur la question de savoir si ça résonne pour le coup avec des choses qui seraient travaillées depuis Leibniz. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu. Autant sur la question de la monade, ça me semble vraiment intéressant de relire. C'est comme si, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a deux concepts d'expression. Il y a, quand Adorno parle de l'œuvre d'art comme monade, il pense à la façon dont Leibniz décrit la capacité qu'a la monade de multiplicité, une infinité de rapports, et donc de nous montrer une image de l'univers, ou en l'occurrence pour Adorno, de la société. Après, sur le verset, je pense qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes coordonnées, mais je suis tout à fait prêt à réviser mon jugement. Qu'est-ce que tu en penses, Ferial ?
Alors, moi, me vient autre chose, en fait, qui est complémentaire, en fait, hein, mais qui est plutôt l'expressif que l'expression, et qui va peut-être faire le lien avec des choses qui ont été dites sur l'idée que l'affinité, c'est le sujet qui se retire. Il y a bien un sujet, mais c'est un sujet qui n'est pas dans sa puissance autonome, active, totalisante, etc. Et me viennent ici, alors j'ai pas en tête exactement les expressions même, les formulations même, mais des choses qui disent, on en a parlé régulièrement ensemble, Zoé, des choses qui disent sur Eichendorff ou sur Borchardt, où justement il parle d'une expressivité de la poésie, je pense qu'il dit. Ou alors il rapproche ça avec expression qu'on peut trouver dans la musique de Beethoven. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un moment dans une poésie à l'intérieur de laquelle le sujet s'auto-efface. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, hein, mais ça veut dire que le sujet laisse passer la langue, en quelque sorte. Il dialectise la langue, mais la ramène vers son objet. C'est-à-dire qu'il refuse de l'attraper comme un sujet pour résoudre la dialectique. Et dans ce moment où il la laisse passer, la langue, il y a quelque chose, dit Adorno, d'expressif. Il faudrait vérifier exactement le terme allemand à cet endroit-là, parce que je suis tout à fait sûre. Et d'une manière générale, lui-même est expressif, Adorno, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans la langue de particulier, dans son écriture à lui, parfois métaphorique, il y a des images absolument incroyables. Dans ces moments où il essaie de faire parler la langue musicale quand il parle de musique, ou la langue poétique quand il parle d'un poème. C'est-à-dire, dans ces moments, il y a quelque chose qui parle, mais ce n'est plus exactement un sujet qui parle. Voilà. Et ça, évidemment, c'est le point expressif de la dialectique négative, c'est-à-dire ce moment où elle renonce, le point du renoncement est très très important, elle renonce à s'arracher vers l'abstraction. Hein, et il y a tous ces moments où en fait il rappelle, et ça peut-être c'est la tonalité expressive propre à Adorno, tous ces moments où il rappelle que dans tout ce moment dialectique, la dialectique se souvient qu'avec ses concepts, elle porte la blessure de ce qu'elle tente de réduire à ses concepts. C'est-à-dire la blessure des choses, du bon vent, de ce qui ne peut se résorber sous le concept. Et dans ces moments-là, je crois qu'on peut dire, Adorno est tout à fait expressif, et que ça, c'est affinité, justement. C'est une tonalité d'affinité qui va vers les objets avec des concepts. C'est vraiment, il est philosophe, hein, il n'a rien en dehors de ça, hein, il le dit, il le répète, ça. Il faut des concepts pour la philosophie, il faut du langage, mais il faut les désensorceler. Et alors, quand on les désensorcelle, ils deviennent expressifs. Voilà. Mais peut-être que là, c'est moi qui rajoute expressif. Hein. Faudra les revérifier dans le texte. Voilà, en allemand. Merci.
Est-ce que peut-être on pourrait ajouter que, mais je ne sais pas si ça colle avec ce que Paul dit de Leibniz, mais en tout cas dans l'art ou cette esthétique qui s'installe au XIXe siècle, il y a une recherche autour de la question de l'expression qui essaye de détricoter les pièges de l'expressivité. Donc, par exemple, chez un théoricien comme Conrad, on trouve l'expression Ausdrucksform. Donc, c'est une forme expressive, mais ce n'est pas une forme qui tombe dans l'expressivité. Donc, le terme de forme vient rarement. C'est comment la langue produit la forme et comment il faut la laisser être. Et il ne faut aucun passage de l'expression. Donc, de tout ce qui pourrait ressortir de l'émotionnel et du sentimental dans la façon dont la forme est expressive. Donc la forme elle-même est expressive. Et c'est ce type de réflexion qui se met en place dans le 19e siècle pour essayer d'éviter le. Donc après les catastrophes d'un reproché à Wölflin qui ne fait pas ça par rapport à une histoire aux significations et aux effets émotifs parce qu'il y a toujours aussi ce problème de savoir quel est le rapport à et l'expressivité parfois convoquée pour charger en force l'effet l'idée de forme expressive est de déplacer vers la forme de manière à ce qu'on évite ce dans lequel on tomberait. Et c'est aussi quelque chose que la philosophie cherche toujours à éviter parce que ça donne la chevermoraille. Donc il faut surtout éviter ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être dans une on ne peut plus marcher parce qu'il n'y a pas d'air pour nous soutenir et ni de sol dans lequel sortir. Je ne sais pas si ça. Voilà.
Alors, moi, j'aurais une question en ayant écouté ce que disait Feriel, ce que vous venez de reprendre, et puis le nécessaire détour par le dictionnaire de l'Académie, le latin, le français. Est-ce que finalement, c'est peut-être horrible la question que j'ai posée, est-ce que finalement cette notion d'affinité, elle n'est pas liée au génie de la langue allemande ?
Dans l'idée de Wahlverwandtschaft ? C'est-à-dire que je pense que là, Paul a expliqué avec l'affinité, parce que c'est paradoxal. La parenté, elle est où donner une dimension du rapport à la liberté, mais d'une liberté qui n'est pas forcément non plus totalement celle du sujet, parce que le sujet, c'est un peu le drame du roman de Goethe, c'est que Le quatuor qui est au cœur de ce roman, en fait, le couple de départ, Charlotte et Édouard, c'est un couple solide, c'est un couple où le contrat, l'alliance est parfaite, ça marche, le jardin est en ordre, la nature. Mais le jardin est là pour montrer à quel point l'ordonnancement fonctionne, à quel point il est. Etc., etc. Et brusquement arrive le capitaine et Oti, qui sont chacun liés avec l'un des membres du couple et tout ce qui faisait l'équilibre est mis en danger. Ce qu'il y a d'intérêt, c'est pour ça qu'elle meurt, elle ne veut pas briser le couple Charlotte-Édouard. Elle est complètement respectueuse de ça. Mais l'affinité fait son travail comme en dehors d'elle et en elle, c'est-à-dire totalement adynamique, elle ne peut plus. Et en même temps, elle voit le mal que ça fait aux autres et ça force son désespoir. Quoi. Donc, il y a je ne rentre pas dans le détail, mais il y a quelque chose de très très beau parce qu'il y a, il y a ce moment où Charlotte. Porte un enfant qu'elle met au monde et il y a cette catastrophe de la ressemblance qui ne fonctionne pas et qui révèle le rapport à l'adultère. Enfin, tout ça fait que. Et Othilie, on lui confie comme la jeune fille qui n'a En gros, on lui confie l'enfant et l'enfant se noie. Donc en fait, il y a quelque chose qui est où la mort, et c'est pour ça que je disais le problème de la variable, la liberté n'arrive pas à s'exprimer complètement, le sujet ne peut pas être libre, et pourtant l'affinité fonctionne, il y a quelque chose d'une parenté qui s'installe, mais la parenté elle est entre et les équilibres ne se font pas. D'où ce que je disais tout à l'heure, faut que ça reste tapis, parce que si ça sort, c'est cette image de l'enfant ou le jeu des ressemblances des sentiments que tout le monde s'était appliqué à garder caché. Et tout ça ne permet pas la vie, quoi. Donc c'est là où la forme est expressive. Cet enfant est une forme expressive. Il est la forme expressive d'avoir lieu dans le rapport des êtres. Et cette forme expressive vaut mieux qu'elle meure, parce qu'autrement elle... Donc c'est, et ça, c'est... Goethe, quand il écrit ça, il pense bien sûr... il continue et il répond, mais l'espèce de résolution qu'il a pu y avoir avec la mort de Julie, Ottilie, il faut qu'elle soit morte pour que la résolution ait lieu, et à ce moment-là elle devient une peinture nazarienne, donc elle devient un objet d'art, ce qui n'est pas ce que fait la mort. Donc c'est tout ça est...
Je crois qu'il est 21h30.
Ah, il faut que... En tout cas, nous vous remercions de votre écoute. Ça, c'est à toi.
Oui.
C'est pour ça que... Parce que moi, j'aurais...